Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. C'est une infection étrange déclenchée par une piqûre de tique. Elle peut provoquer dermatose, arthrite et aller jusqu'à des atteintes neurologiques si elle n'est pas soignée. On la nomme la maladie de Lyme. En France, dans de trop nombreux cas, cette maladie n'est pas diagnostiquée et les patients se retrouvent abandonnés avec leur souffrance. Pourquoi ne traite-t-on pas mieux cette maladie alors que des protocoles thérapeutiques efficaces existent? Les autorités de santé pourraient-elles faire mieux? On en parle aujourd'hui avec le professeur Christian Perron, dont le livre « La vérité sur la maladie de Lyme » vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Pour lui adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons le docteur attitré de La Tête au Carré, Dominique Dupagne, qui s'intéressera aujourd'hui à l'impact de la cigarette chez les fumeurs occasionnels. Et pour la Une de la Science, c'est toujours Agnès Fèvre. Bonjour Agnès.
Bonjour Daniel.
Aujourd'hui, une carte du monde qui fait un lien entre les produits que nous consommons et leurs effets sur les espèces menacées.
Oui, on s'intéresse à l'homo consommatus des pays du Nord. Comment son meuble en kit, sa pâte chocolatée ou son téléphone intelligent affecte la biodiversité à des milliers de kilomètres? Pour la première fois, des chercheurs localisent les menaces de ces biens de consommation. On en parle avec François Letourneux, vice-président de l'UICN.
Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Stéphanie Texier et préparé par Chantal Lemontagnier et Pierre Gaufre.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Christian Perron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, chef de service en infectiologie à l'hôpital universitaire Raymond Poincaré de Garches. Votre livre « La vérité sur la maladie de Lyme » chez Odile Jacob est sorti hier en librairie. Et dès la première page, le ton est donné. Vous parlez concernant cette maladie d'un scandale mondial, l'un des plus effarants de l'histoire de la médecine. Les mots sont forts.
Oui, parce que c'est une maladie qui a été découverte il y a 35 ans, même si elle existait depuis la nuit des temps. Et dès le départ, il y a un petit groupe d'experts qui a fait en sorte qu'elle soit peu diagnostiquée. On a mis au point des tests diagnostiques qui étaient mauvais. Et toutes les recommandations étaient faites contre l'évidence scientifique, sans que ça n'interpelle personne, sauf les pauvres malades qui sont abandonnés.
Quoi. Oui, des malades donc qui se retrouvent avec des symptômes un peu inexpliqués et seuls face à leur souffrance.
Le problème, c'est que cette maladie peut donner un peu tout et n'importe quoi comme si, donc c'est difficile à diagnostiquer. Il y a des formes bénignes aussi, je ne veux pas inquiéter tout le monde, il y a des personnes qui guérissent toutes seules, mais il ne faut pas négliger toutes ces pauvres personnes avec des formes graves qui sont très handicapées.
On s'intéresse à la maladie de Lyme dans La Tête au Carré cet après-midi, et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. À la Une de la Science, les effets de nos produits de consommation sur la biodiversité.
Il faut arrêter de manger du Nutella parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres et donc il y a eu des dégâts considérables.
Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant faut pas manger de Nutella.
Eh ben, faut qu'ils utilisent d'autres matières premières.
Ségolène Royal, s'insurgeant contre les effets sur la nature d'un produit de consommation courante. La ministre a ensuite un peu rétropédalé sur ce sujet. Alors, identifier les points chauds des espèces menacées par les chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est le titre d'une étude qui vient de paraître dans le numéro 1 de Nature, Écologie et Évolution. Les deux chercheurs norvégiens et japonais associent à des points chauds d'espèces menacées, les fameux hotspots, des secteurs industriels, agriculture, exploitation forestière ou transport et remonte la chaîne de production jusqu'à nos objets de production. Pour en discuter avec nous, nous sommes en ligne avec François Letourneux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'UICN France, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors on sait que l'homme est une menace pour la biodiversité, mais là on envisage la logique de conservation des espèces du point de vue du consommateur, c'est ça?
C'est un peu ça, oui. En fait, on a toujours tendance à rester chez soi et à considérer que le tort qu'on fait à la nature, on le fait aux espèces animales et végétales qui nous entourent quand on utilise des pesticides ou quand on défriche en France. En fait, le fait d'être un pays riche nous conduit à aller détruire la nature très loin. Lorsque nous achetons des produits dans lesquels il y a de l'huile de palme, vous venez d'en parler, si on ne fait pas attention, on contribue à la déforestation en Birmanie.
Agnès.
Oui, alors quels sont les résultats observés dans cette étude? Est-ce qu'on peut citer des exemples de ces hotspots justement perturbés par des consommateurs américains, européens ou japonais?
Alors déjà, c'est intéressant, ces hotspots, ils ont été constitués à partir de la liste des espèces spécialement menacées de l'UICN. On est parti de cette liste qui a l'énorme qualité d'être extrêmement sérieuse scientifiquement et le petit défaut de ne concerner que des espèces très visibles. ou pour l'essentiel des espèces prévisibles. Néanmoins, à partir de ces espèces menacées, on a déterminé des endroits dans lesquels il y a à la fois beaucoup d'espèces rares, beaucoup d'espèces menacées, et en même temps beaucoup de pression. Beaucoup de pression pour l'exportation, pour les États-Unis, pour le Japon, pour l'Europe. Et on a ensuite essayé de calculer dans cette étude quelle est l'importance de cette pression. Qu'est-ce qui, dans le déclin d'une espèce, par exemple le lynx pardel en Espagne, est imputable à l'Espagne, c'est-à-dire à des choses que l'Espagne peut réguler elle-même, et qu'est-ce qui est imputable à d'autres pays, tout simplement parce que ces pays achètent de plus en plus d'huile d'olive, et que pour faire de l'huile d'olive, on fait des barrages en collinaires, et qu'en faisant des barrages collinaires, on perturbe l'habitat du lynx pardel, qui est endémique de l'Espagne du Sud, et que ce lynx pardel disparaît.
En fait, aussi bien la nature est organisée en écosystème, tout se tient, mais notre production et notre consommation aussi est très liée et complètement mondialisée. Donc les effets peuvent être avec des répercussions très lointaines.
Voilà, et c'est important de se rendre compte que notre principale responsabilité dans la destruction de la biodiversité, elle tient au fait que nous sommes un pays riche, un pays du Nord, et que c'est dans les pays du Sud que, sans nous en rendre compte, nous causons des dégâts. Alors pendant ce temps-là, notre politique, mais comme celle de tous les pays développés, elle conduit à mettre beaucoup d'argent dans la... Enfin, beaucoup d'argent. Elle conduit à mettre l'essentiel de l'argent qu'on y met sur la protection de la nature dans notre pays, à créer des parcs nationaux, à préserver des espèces. Et dans le même temps, c'est ailleurs que nous faisons le plus de dégâts.
Agnès. C'est ce qu'on voit justement avec cette carte du monde. Il y a 187 pays représentés. Et on voit par exemple que nous, consommateurs de l'Union européenne, on affecte plusieurs points chauds pour la biodiversité en Afrique. Il y a Madagascar, l'Éthiopie, la Corne de l'Afrique, le Maroc. On peut l'associer avec certaines industries en particulier, ça, François Letourneux ?
Bah oui, on peut évidemment, en premier lieu, l'associer avec l'importation de bois exotique.
Oui, donc pour Madagascar
évidemment,
notamment.
Lorsqu'on coupe à l'excès, lorsqu'on dérange des espèces qui ont besoin d'être tranquilles en forêt, et c'est le cas notamment des grands singes, bah c'est évidemment catastrophique. Alors évidemment aussi, nous essayons de créer des labels de qualité, de faire en sorte qu'on ne fasse plus de destruction illégale, mais le simple fait qu'il y ait un marché économique très porteur sur les bois exotiques fait qu'à côté de ces bois produits sous label, il y a des quantités de bois produites pas sous label et qui sont vendues à des pays un peu moins regardants que d'autres.
François Letourneux, vous citez donc la production ou en tout cas l'exploitation de bois exotiques. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs particulièrement destructeurs pour la biodiversité ?
Tous les éléments industriels qui impliquent une modification des milieux naturels peuvent avoir des conséquences très graves et sans qu'on s'en rende vraiment compte. Quand on remplace une culture vivrière faite de petites parcelles en Afrique, faite de petites parcelles cultivées par chaque agriculteur pour sa famille, par d'immenses territoires en monoculture d'arachides ou en monoculture de produits d'exportation, on a le même impact en Afrique que celui qu'on a en Europe lorsque on a des milliers d'hectares de colza, c'est-à-dire que, en plus que ce colza est traité aux pesticides, c'est-à-dire que on a un effondrement des populations d'insectes et par conséquent un effondrement des populations d'oiseaux qui se nourrissent des insectes et par conséquent des conséquences sur la santé des êtres humains et une modification profonde de ce tissu vivant de la planète dont nous vivons.
Mmh. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, là, ces hotspots, ces points chauds se réfèrent aux quelques 6000 espèces menacées qui figurent dans la liste rouge de l'UICN. Est-ce que c'est un bon indicateur ?
Alors, c'est un bon indicateur, insuffisant, mais indispensable.
Pourquoi insuffisant ?
Insuffisant parce que, par exemple, les Anglais ont piloté une étude il y a 2 ans sur comment évoluent les populations de 144 espèces d'oiseaux nicheurs en Europe. Et cette étude, elle démontre que, paradoxalement, pendant que les espèces rares et menacées voient leur situation plutôt s'améliorer parce qu'on s'en occupe, parce qu'on y met des moyens, parce qu'on réintroduit le gypaète barbu ou qu'on s'occupe actuellement d'essayer de sauver le hamster d'Alsace, pendant ce temps-là, qui n'est pas un oiseau, les oiseaux communs, les oiseaux ordinaires qui, en silence, sans être vraiment menacés, voient leurs effectifs s'effondrer.
Donc qui pourraient être les espèces menacées demain?
Des millions d'oiseaux en nombre dans des populations, dans des espèces qui ne sont pas menacées, qui ont disparu, et avec eux, tous les services qu'ils rendaient aux écosystèmes. Lorsque vous circulez en voiture sur les routes de France, combien de fois avez-vous à nettoyer votre pare-brise parce qu'il est complètement encombré d'insectes? Plus jamais. Or, tous les gens qui ont plus de 50 ans se souviennent que quand on roulait en voiture sur la route française, on avait une bouillie d'insectes sur le pare-brise. Ça, c'est l'intensification agricole.
François Letourneux, on se dit, en voyant cette étude, que peut-être qu'elle servira à des gouvernements pour légiférer, essayer d'améliorer les choses. Est-ce que, aussi individuellement, on peut changer nos pratiques de consommateurs pour, à notre échelle, essayer de préserver la biodiversité?
Oui, c'est l'un des grands intérêts de cette étude. Elle va certainement servir de base à des tas de poursuites, d'approfondissement, etc. Mais dès à présent, ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint une idée qu'on a pour d'autres raisons, qui est celle du souci de travailler localement. Lorsqu'on travaille localement, lorsqu'on achète des produits locaux, lorsqu'on s'intéresse à la manière dont ils sont produits, parce qu'ils sont produits près de chez nous, lorsqu'on travaille avec ceux qui les produisent pour améliorer les conditions de cette production, on fait moins de dégâts que quand on fait confiance à des importateurs pour nous livrer n'importe quoi venant de n'importe où.
Et bien voilà, comme ça c'est dit. Merci François Letourneux pour cet avis éclairé. Et Agnès, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'intelligence du poulet sous-estimée. On le considère souvent comme un animal stupide et irréfléchi. Pourtant, le poulet développe des capacités cognitives et sociales similaires aux autres oiseaux. C'est ce qu'affirme un article publié dans le journal Animal Cognition qui passe en revue de récentes recherches concernant ce volatile. Ainsi, les poulets savent raisonner par déduction, ont une mémoire des mouvements semblable à celle des primates et utilisent pour communiquer un savant répertoire de 24 vocalises différentes. L'imbattable joueur de Go en ligne est démasqué. Ces derniers jours, un mystérieux joueur, dénommé Master, balayait l'un après l'autre les membres d'une plateforme de jeux de Go en ligne, jusqu'à battre le meilleur joueur du réseau à deux reprises. Après l'apparition de nombreuses rumeurs, la société DeepMind a confirmé que c'était bien son programme d'intelligence artificielle AlphaGo qui se cachait derrière ses victoires. C'est ainsi que le programme s'améliore, chaque partie lui permettant d'optimiser son jeu. Les secrets du nuage d'Orion dévoilés, le télescope européen Vista, basé dans un désert chilien, a réussi à percer un nuage opaque qui entoure la nébuleuse d'Orion. Grâce à la haute résolution de l'instrument dans le domaine de l'infrarouge, les scientifiques peuvent désormais précisément observer l'intérieur du nuage Orion A, la pouponnière d'étoiles massive la plus proche de nous. Pour jeter un œil à cette voisine cosmique, rendez-vous sur la page Facebook de La Tête au Carré. La maladie de Lyme est le thème du dossier de La Tête au Carré aujourd'hui. Notre invité, le professeur Christian Perron, attend vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
Stylé, ok, funky, trop drôle, samedi, trop cool, extra sympa, puissant, dément, piscine, villa, champagne, taxi, ifi, Dolby, Botox, glamour, sexy, crazy.
T'es trop VIP.
100% VIP, c'était Philippe Catherine.
La tête carrée sur France Inter.
La vérité sur la maladie de Lyme. Tel est le titre de votre livre, Christian Perron, paru hier aux éditions Odile Jacob. Vous êtes infectiologue, chef de service en infectiologie à l'hôpital universitaire Raymond Poincaré de Garches et professeur en maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine de Paris-Ouest. À partir de quand vous avez pris conscience que la maladie de Lyme était au cœur de ce que vous appelez une des plus grandes controverses de l'histoire de la médecine?
Moi, ça fait longtemps que je connais cette maladie, dès le début de mes études, quand j'étais interne. Au moment où la maladie commençait à émerger, à être connue aux États-Unis, parce que j'avais un Eric Dournon qui était un petit peu plus âgé que moi, qui était un assistant au-dessus de moi à l'époque, s'était beaucoup intéressé à cette maladie parce qu'il était allé aux États-Unis pour une autre raison. Il avait découvert cette maladie, il avait ramené dans sa poche les kits de diagnostic, bon, qui sont pas parfaits, on le sait maintenant, mais c'était déjà ça à l'époque. Il s'était passionné pour cette maladie, il m'avait beaucoup appris. Et le hasard de l'histoire a fait, parce que malheureusement Eric est décédé trop tôt, il y a quelques années, quoi, maintenant ça fait longtemps parce que ça fait plus de 20 ans que je suis à Garches, j'ai pris sa suite à l'hôpital de Garches où il avait été nommé professeur, et le centre de référence de la maladie de Lyme à l'époque était basé à l'hôpital de Garches.
Et donc vous avez vu arriver ces patients un peu déboussolés avec des symptômes très très variables et qui en souffrance, tout simplement.
Alors, les formes aiguës sont bien connues. Alors bon, la légende dit qu'ils guérissent très vite et que tout va bien, mais en fait il y a beaucoup de malades qui, après cette phase initiale, même s'ils ont été traités, vont garder des problèmes terribles. Et le calvaire de ces malades, c'est que les signes soit sont ce qu'on appelle fonctionnels dans le jargon médical. Alors fonctionnel, ça veut dire qu'on les voit pas. C'est les malades qui s'en plaignent. Ils disent « je suis fatigué », mais c'est pas la petite fatigue. C'est des vraies fatigues qui empêchent de travailler, de se lever, qui ont des douleurs partout. Mais les douleurs, ça se mesure pas avec un appareil, ou qui ont des troubles de concentration. Et dans la médecine moderne, malheureusement, tout doit être mesuré, donc c'est des choses qui sont pas mesurables. Et quand des choses sont visibles, que les gens ont des troubles neurologiques, des paralysies, des problèmes cardiaques, articulaires, qu'on peut mesurer ou voir sur des imageries, on peut voir exactement les mêmes signes dans d'autres maladies. Mm-hmm. Donc les médecins vont dire, ben non, vous n'avez pas de Lyme, vous avez une autre maladie, il y en a toute une liste, parce que ça peut simuler un peu tout et n'importe quoi. Donc finalement, les malades se retrouvent jamais dans la bonne case.
Je vous propose d'écouter l'une de ces malades qui a du mal à se retrouver dans la bonne case. C'est le témoignage donc d'une patiente atteinte par la maladie de Lyme.
Comment comprendre qu'un jour j'ai très très mal au visage et que c'est presque insupportable, mais le lendemain mon visage ne me fait plus du tout mal, mais par contre je suis tellement fatiguée que je ne peux plus bouger du lit parce que mon cœur ne va pas bien, et trois jours après je gonfle d'un seul coup du bras et que ça devient d'un seul coup une tendinite ou une inflammation à l'articulation. Donc, pour l'entourage, c'est très, 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 très difficile à comprendre et à gérer.
Extrait du documentaire « Quand les tiques attaquent ». Comment on explique cette variété des symptômes, Christian Perron ?
Parce que la Borrelia, c'est le nom de la bactérie, peut se mettre dans tous les tissus. Elle est pas très agressive habituellement. Il y a des formes agressives où il peut y avoir des formes même graves et mortelles rapidement. Mais dans la majorité des cas, c'est plutôt des formes bénignes ou des formes insidieuses qui peuvent développer des signes très graves au fil du temps. Mais ça peut demander des mois et des années. Mais cette bactérie, elle fait pas beaucoup de bruit. Elle est au chaud dans nos tissus, dans nos cellules. Elle s'y cache. Elle mange. Elle est bien. Mais elle va perturber le fonctionnement un peu de tous les organes. Mais ça peut aller de la racine des cheveux au doigt de pied en passant par le cœur, le foie et tous les organes.
comment elle se transmet, cette fameuse bactérie qui, on se rend compte, a beaucoup d'effets différents sur notre corps.
Le mode essentiel de transmission, c'est la tique, cette petite bête qui fait pas peur, parce qu'on a toujours vu des tiques sur nos animaux domestiques, les chiens, les chats, et on n'imagine pas que ça peut transmettre des maladies graves. Après, il y a peut-être d'autres arthropodes ou insectes qui pourraient transmettre, mais c'est beaucoup plus anecdotique. C'est des mauvais transmetteurs, les autres petites bestioles. Il y a de la transmission materno-fœtale pendant la grossesse. Si une femme a une maladie assez évolutive pendant la grossesse, mais c'est essentiellement transmis par ces vecteurs dans la nature.
Ouais. Donc les principaux coupables, ce sont donc les tiques.
Qu'on soit en rando ou même en vélo, où on passe plus vite, elles arrivent quand même à s'accrocher. Alors, je ne sais pas si c'est pendant les pauses ou pendant la pratique. Mais ça arrive qu'il y ait comme des nids de tiques. Ça nous est arrivé une fois en randonnée que quelqu'un s'assoit dans l'herbe pendant le casse-croûte et il s'est relevé, il a peut-être 200 ou 300 tiques sur lui.
Toute l'année.
Même en hiver, des fois avec le chien se promenant la journée en raquette, on n'a été que sur la neige, on revient à la fin de la balade, le chien a chopé des tiques. Alors qu'on a démarré la balade sur la neige, on y est resté, donc ça a l'air d'être invulnérable.
Ils ont l'air invulnérables, assez terrifiants aussi quand on le voit en gros plan sur la couverture de votre ouvrage avec ce rostre, cette espèce d'aiguille qu'il a au niveau de la tête pour pouvoir nous injecter, enfin pomper notre sang et aussi nous injecter cette bactérie.
En fait, c'est tique, c'est pour faire le lien avec votre reportage précédent sur la disparition de certaines espèces animales. On voit par exemple des abeilles qui sont en voie de disparition. Les tiques se portent très bien. Oui. Tous les spécialistes ce ne sont pas des insectes. On m'a souvent dit c'est des arthropodes, mais les tiques prolifèrent dans le monde entier. Et on a vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Et effectivement, maintenant, on peut voir des tiques qui sont actives en plein hiver, alors qu'avant, on disait les maladies à tiques, dont la maladie de Lyme, ne se transmettent qu'à la belle saison.
Ouais. Et alors, ces tiques, on les trouve de plus en plus aussi en France ou de plus en plus porteurs de cette bactérie ? C'est une tique,
si porteuse une tique, de cette bactérie. Alors, les taux de portage sont très variables. On sait que dans des forêts d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, ça peut atteindre 40% dans certaines régions. Dans la forêt des Vosges, à certains endroits, ça peut être 30%. Dans la région parisienne, la forêt de Sénart, qui est particulièrement touchée, ça peut atteindre 20%.
Vous dites que c'est un écureuil qui a amené la bactérie
dans la forêt de Sénart. C'est un petit écureuil de Corée ou de Sibérie. Bon, il a plusieurs origines possibles, qui a été mis là par des particuliers qui l'avaient acheté en animalerie, puis qui s'en sont débarrassés. Il a proliféré. Et cet écureuil a beaucoup plus de tiques que les écureuils français, si je puis dire, et donc est responsable de contaminations importantes.
Donc il y a cette forêt de Sénart, la région, le Grand Est de la France, l'Alsace,
régions... La Creuse ou le Limousin, c'est la région la plus touchée actuellement, mais en fait il y en a partout, parce qu'il y a une légende qui dit qu'il n'y a pas de maladie de Lyme dans le sud, qu'il n'y en a pas encore, c'est totalement faux. Il y a des malades qu'on voit régulièrement, mais les tests sont beaucoup plus souvent négatifs dans certaines régions parce que les souches de bactéries sont probablement pas les mêmes et encore moins dépistées par les tests.
Gilbert vous demande par mail quels sont les facteurs principaux de présence de tiques. Est-ce que il y a des coins, je sais pas si c'est humide, si c'est surtout boisé, dans quel endroit il ne faut pas aller se fourrer?
Alors la tique aime bien les endroits où il y a beaucoup d'animaux, mais ça peut être des petits rongeurs ou des grands cervidés. Donc c'est sûr que elles aiment bien les forêts, mais dans la forêt elles vont préférer les zones humides, mais aussi elles ont besoin de lumière. Donc on les voit plutôt à la lisière des forêts, en bordure des clairières. On peut les voir dans des grands parcs ou dans des maisons en lisière de forêt. On peut les voir pas très loin de nos villes, parce que des gens effectivement habitent très près de la nature ou sont tout le temps dans la nature avec leurs animaux domestiques.
Et Gilbert ajoute aussi dans sa question, il dit qu'il a été contaminé dans des sous-bois qu'il fréquente sans problème depuis des années. Ces sous-bois sont occupés depuis peu par des troupeaux de bovins. Est-ce qu'il y a un rapport possible, vous demande-t-il ?
C'est possible, parce que ce soit les bovins ou les cervidés, plus il y a d'animaux dans une forêt, dans un biotope, plus il y a de tiques. Probablement que maintenant, il y a beaucoup moins de chasseurs qu'à une certaine époque. Maintenant, on voit les gens me racontent que les biches viennent brouter dans leur jardin, les sangliers viennent faire les poubelles. On est peut-être plus proche de ces animaux, ils sont peut-être beaucoup plus nombreux au contact des hommes. Ils ont peut-être moins peur aussi. On sait que dans différents endroits, en Europe, en Amérique du Nord, il y a des animaux sauvages maintenant qui sont dans les villes.
Alors on va quand même rassurer nos auditeurs, si on est piqué par une tique, on n'a pas forcément la maladie de Lyme.
Heureusement, il y a des tiques qui ne sont pas contaminées ou qui portent d'autres microbes mais qui ne sont pas dangereux pour l'homme. Et même quand on est contaminé par la bactérie de la maladie de Lyme, il y a des gens, leur système immunitaire est bon, peuvent résister naturellement, peuvent faire des formes bénignes ou guérir tout seul. Mais même si on est contaminé sans être malade, on peut réactiver la bactérie, on peut la garder plusieurs années avant qu'elle se développe.
Alors quelle est la bonne attitude à avoir si on est piqué par une tique ?
Alors si on est piqué, d'abord il faut le savoir, parce qu'on sait que 3 fois sur 4, les gens qui font la maladie de Lyme ou des maladies à tiques n'ont pas remarqué la piqûre, parce que les nymphes peuvent faire 2 mm et si elles vous piquent dans les cheveux ou dans un pli ou dans le dos, on ne les voit pas. Après, quand on la repère, c'est de l'enlever avec un tire-tique, sans rien mettre dessus avant, et de la tourner délicatement pour la dévisser, parce que si on tire sauvagement, on va casser le rostre ou un morceau de la tête. Et après, bien désinfecter avec de l'alcool ou un antiseptique cutané, et surveiller.
Ouais. Bon, quels sont les signes qui doivent alerter?
Alors, une fois sur deux, malheureusement, c'est pas dans tous les cas, apparaît après quelques jours une auréole rouge qui va aller en grandissant comme une cocarde qui s'agrandit progressivement. Ça peut faire la taille d'une pièce de 2 euros, mais ça peut atteindre 20 cm, voire beaucoup plus. Et si on voit cette telle rougeur qui s'étend, il faut courir voir son médecin et lui demander un traitement antibiotique. Et là, ce qui est important, il faut que les gens soient bien au courant, parce que les médecins ne connaissaient pas toujours bien cette maladie jusqu'à une période récente. Le médecin est tenu, de par tous les consensus officiels, de donner en urgence un antibiotique pendant minimum 2 à 3 semaines et à bonne dose, ce qui la plupart du temps n'est pas fait. Et surtout sans faire de test par prise de sang de la maladie, car à ce stade les tests sont presque toujours négatifs et le médecin à tort va dire « voyez, vous n'avez pas la maladie de Lyme alors qu'il faut impérativement traiter ».
Alors les tests à ce moment-là sont quasiment tous négatifs, mais même après, quand la maladie s'est installée, là encore sur le diagnostic, on a l'impression que les tests ne sont pas vraiment fiables.
Malheureusement, les tests qui ont été mis au point, on n'a jamais pu les calibrer correctement. C'est pour calibrer un test sur une maladie, il faut savoir qui est malade. Et dans le Lyme, comme les signes ne sont pas spécifiques ou pas mesurables, on n'a jamais su qui était vraiment malade de Lyme. Donc c'était calibré un petit peu au pifomètre avec des critères totalement arbitraires. Et en plus, on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'autres espèces de Borrelia, voire d'autres microbes, qui donne des signes de maladies similaires. Donc ce test est très mauvais et un petit groupe d'experts a fait croire au monde entier qu'ils étaient excellents, ce qui est une imposture scientifique.
Ouais, on va essayer de comprendre justement l'aveuglement collectif des experts, des autorités de santé et de certains médecins face à la maladie de Lyme que vous dénoncez dans votre livre. Pour adresser vos questions à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Been alone long enough to know if I ever was a child. I was tied up like a boat on a button like a coat, set free for a while. Well, I jumped to jolt my clumsy blood. Pain I can't take.
If I Ever Was a Child. C'était Wilco sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
On s'intéresse à la maladie de Lyme avec le professeur Christian Perron, auteur de La vérité sur la maladie de Lyme chez Odile Jacob. Alors, on a énormément de messages qui parviennent sur la boîte de la tête au carré. Beaucoup de gens qui s'interrogent sur les diagnostics. Par exemple, Anna qui vous dit « Beaucoup de gens atteints de la maladie de Lyme se font diagnostiquer trop tard. Est-ce dû à des tests encore trop peu efficaces ?» Philippe qui s'inquiète aussi « Que valent les tests en pharmacie ?» Réponse.
Alors, les tests déjà courts qu'on fait au laboratoire avec une prise de sang ne sont pas bons, comme je disais, ne dépistent pas non seulement toutes les espèces de Borrelia, mais les autres microbes qui peuvent aussi donner des signes de maladie après une piqûre de tic. Il faudrait, et puis alors je tords le cou tout de suite des tests rapides vendus en pharmacie, parce que à mon avis ça c'est un petit peu du business. On profite de la mode médiatique de la maladie de Lyme et des maladies atiques pour vendre des tests qui sont pas très bons, parce que déjà les tests faits en laboratoire sont pas bons, mais alors les tests rapides comme ça, on sait pas trop comment c'est validé, donc ça j'y crois pas trop.
Donc qu'est-ce que vous répondez à Philippe qui vous dit quel est le test le plus efficace et où le faire ?
Alors maintenant, les tests officiels sérologiques tels qu'ils sont recommandés, quand ils sont positifs, on peut être sûr qu'on était en contact avec la maladie de Lyme. Et ce qui est important, c'est que même quand le test est positif, il y a un tel déni sur la maladie par les médecins qu'on leur dit, vous avez une sérologie positive, mais ce que vous avez, c'est pas de Lyme ou c'est un faux positif. C'est ce que disent très souvent des collègues. Et ça, c'est encore totalement scandaleux parce que déjà, quand le test est positif, selon les critères officiels, on devrait au moins reconnaître la maladie quand il y a des signes compatibles. Alors, malheureusement, beaucoup de gens sont avec des tests négatifs et il faudrait privilégier des tests qui existent mais ils n'existent que dans certains laboratoires vétérinaires, parce que les biologistes vétérinaires sont très en avance, et ils arrivent à isoler directement les microbes en cause, pas par une sérologie qui est un test indirect. La sérologie, c'est on cherche les anticorps que le malade a fabriqués contre le microbe. L'idéal, c'est d'isoler le microbe lui-même. Il y a des tests d'amplification génique, c'est un peu technique comme terme, on arrive à isoler la bactérie ou les parasites associés directement. On peut le faire chez le chien, la vache ou le cochon.
Vous êtes en train de nous dire, Christian Perron, que les tests pour animaux sont plus fiables et plus précis que ceux qu'on a à disposition. Alors, peut-être pas dans tous les êtres humains.
Peut-être pas dans tous les laboratoires vétérinaires, mais je connais des laboratoires qui font des tests qui sont remarquables et qui ont, dans certains cas, pour dépanner les humains, fait des tests chez les humains. Malheureusement, ces laboratoires qui ont osé faire ça ont été lourdement attaqués par les autorités de santé en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de faire des tests pour les humains. Pourtant, nous sommes des animaux comme tout le monde. L'OMS rappelle qu'il y a une seule santé dans l'environnement microbien entre les animaux et les humains.
Il y a des choses qui choquent dans votre livre où vous dites finalement on a fixé des seuils de façon arbitraire, de façon à ce qu'il n'y ait jamais plus de 5% de positifs dans les tests. Si on procédait comme ça pour n'importe quelle autre maladie, ça paraîtrait aberrant, puisque évidemment, on est malade ou on ne l'est pas, on n'est pas là pour remplir des statistiques.
Alors, ce qui est amusant, c'est quand j'ai dit ça, que les tests avaient été calibrés sur des donneurs de sang en bonne santé. Dans une maladie dont les tests sont calibrés sur des gens en bonne santé, ça paraît bizarre avec ce maximum à 5%. Quand j'avais osé dire ça dans les médias il y a quelques années, on a dit mais que j'étais fou, que je racontais n'importe quoi. Pourtant, j'avais la preuve scientifique et j'étais content parce que récemment, même le médecin du centre de référence de Strasbourg l'a reconnu en public en disant que les tests étaient calibrés sur les donneurs de sang. Il a parlé de ce seuil à 5%. Donc ce seuil, il est officiel. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est encore une fois un scandale scientifique, mais qui n'a interpellé personne. Et je comprends même pas que mes collègues ne hurlent pas quand ils entendent ça et croient encore de façon religieuse à la fiabilité de ce test qui est vraiment nul et qui a été calibré pour que ça reste une maladie rare qui n'est pas rare.
Avec des cas très concrets, c'est-à-dire qu'on se fait diagnostiquer dans l'Est, là où il y a beaucoup de cas et on est négatif, on vient à Paris, là où il y a moins de cas, et le test devient positif.
Et tout à fait. Alors, j'avais observé ça comme ça, mais déjà, quand les gens changent de laboratoire, ils peuvent changer de marque de test. Alors, ça peut changer, parce que si on fait 4 marques de tests différents, on a 4 résultats différents. Bon, ça me choque pas, mais enfin, c'est quelque chose. Si, ça me choque, mais c'est quelque chose qui était connu. Mais même avec la même marque, le même test, d'une ville à l'autre, vous pouvez avoir des résultats différents, parce que comme c'est calibré sur les donneurs de sang selon le niveau d'anticorps dans la population, par exemple en Alsace, où beaucoup de gens ont été en contact avec la maladie, ils ont beaucoup plus d'anticorps qu'à Paris. Bon, il y a quand même beaucoup de cas à Paris, mais il y en a. Et donc, du coup, on peut être dépisté effectivement positif à Paris alors qu'on est négatif en Alsace.
Et parfois, en plus de ces tests un peu aléatoires, les médecins ne comprennent pas ce qui se passe face aux symptômes des patients.
37 consultations médicales en 10 mois, entre juin 2008 et avril 2009. rien. Madame, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Donc, je suis passée par des IRM, par des scanners, par des scintigraphies, par des cystoscopies, par de la biologie. On a cherché de tout. On trouvait rien. Voilà. Madame, écoutez, allez voir un psychiatre. Ça a pris des proportions qu'aucun médecin n'arrivait à comprendre. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Un brouillard total et des douleurs infernales, des brûlures dans les muscles, dans le ventre, dans les poumons, dans le front, dans les yeux, des brûlures, mais une douleur permanente qui fait que il y a eu des moments, des hivers où je me disais mais c'est pas possible, quoi, je ne vais pas continuer comme ça, je peux pas envisager de passer encore une autre année comme ça, c'est pas possible.
Un nouveau témoignage d'une patiente issue du documentaire « Quand l'éthique attaque » qui rappelle des témoignages que vous citez dans votre livre avec des gens qui n'en peuvent plus, hein, qui souffrent et qui sont complètement démunis face à cette souffrance que personne ne veut prendre en compte.
C'est terrible. Alors, ceux qui s'en sortent un peu, c'est quand leur entourage familial, leur médecin traitant les croit et les soutient, parce que ceux qui sont abandonnés par le médecin, par la famille, c'est terrible. Et malheureusement, j'ai beaucoup de témoignages de suicides et j'ai connu personnellement des gens qui se sont suicidés parce qu'ils n'étaient pas reconnus par leur entourage et qui souffraient de façon terrible. Et beaucoup m'ont raconté leur parcours, parce que j'ai réussi à sortir quand même pas mal de gens de psychiatrie, des adultes, des enfants. Énormément de gens qui ont atteint la maladie Lyme sont enfermés en psychiatrie, ils hurlent de douleur et les psychiatres leur disent que c'est eux qui fantasment et que les douleurs sont inventées qu'ils s'inventent leurs douleurs pour s'amuser, pour d'autres raisons.
On les traite de malades imaginaires, d'affabulateurs, voire de fous, hein, vous le dites, puisqu'ils terminent en service psychiatrique et on imagine que ça ajoute de la souffrance et du désespoir. Les médecins savent-ils soigner la maladie une fois qu'elle est reconnue, identifiée, quand on est sûr qu'on a affaire à la maladie de Lyme? Est-ce qu'on a les bons outils thérapeutiques?
Non, parce que les médecins suivent le consensus et les recommandations officielles. Alors, ils donnent l'antibiotique recommandé pendant 3 semaines. Et après, ils disent aux malades, vous êtes guéris, au revoir. Mais malheureusement, beaucoup de malades ne sont pas du tout guéris ou rechutent rapidement. Et quand ils retournent voir leur médecin, on leur dit, ce n'est pas possible. C'est écrit partout que la maladie guérit facilement en 3 semaines. Et si les gens insistent, là, effectivement, on les envoie en psychiatrie, ouais. on les rejette. Et moi, j'ai malheureusement... La plupart de mes collègues disent, moi, je guéris tous mes malades en 3 semaines de traitement, j'ai aucun souci, c'est une maladie qui se guérit très facilement. Mais c'est pas eux qui revoient les malades, parce qu'ils les revoient une fois, le malade a compris qu'il n'était pas cru, qu'on le prenait pour un fou, et ils retournent pas voir ces médecins. Et eux, ils sont convaincus qu'ils ont guéri le malade, mais ils l'ont pas guéri du tout.
Ils l'ont juste désespéré, il est allé voir ailleurs. Et on a inventé ce drôle de syndrome pour expliquer que certains, après 3 semaines de traitement, ne sont pas guéris. On parle de syndrome post-Lyme.
Alors ça, c'est une imposture aussi scientifique, c'est inventé par un petit groupe d'experts aux États-Unis il y a 30 ans, parce qu'il y a des bons médecins américains qui, à l'époque, avaient publié dans des bons journaux médicaux pour dire le Lyme, ça ne guérit pas en 15 jours, 3 semaines. Il y a beaucoup de gens qui restent malades, qui rechutent. Et malgré leur publication, on les a marginalisés en disant qu'ils étaient fous. Et le petit groupe d'experts avait décidé que tout le monde devait guérir en 15 jours, 3 semaines. Et comme beaucoup de gens se plaignaient, ils ne pouvaient pas le nier. Il y avait des milliers de gens déjà aux États-Unis à l'époque qui disaient « mais je ne suis pas guéri ». On leur a dit « non, mais vous n'avez plus la maladie de Lyme, votre bactérie est morte ». Si vous continuez à vous plaindre, ils ont inventé ce syndrome post-Lyme, ça veut dire, on ne sait pas trop ce que c'est. Oui. C'est de la psychosomatique, l'âge, c'est inflammatoire, et puis aller voir ailleurs.
On va essayer de comprendre pourquoi un tel déni dans la communauté scientifique et parmi les médecins. Et puis vous nous direz aussi qu'il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Les choses sont en train de changer. Vous répondrez aussi aux questions que les auditeurs vous ont adressées sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr.
Faire tomber le verrou, la cloison, l'écrou, faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur. Courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un peu plus de jour, un peu plus de ciel, revoir le paysage. monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large. Oui, enfin voir la vue, enfin voir dessus, prendre de la hauteur. Enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure. Pourquoi pas? Sauver de la prison. Pourquoi pas? Pourquoi non? Pourquoi pas? Sauver de là, sauver de ma prison. Pourquoi pas l'évasion? Ma chance, reprendre de la taille, passer la muraille et voir la différence. Pourquoi pas?
Mathieu Bogaerts, pourquoi pas dans la tête au carré sur France Inter. On s'intéresse à la maladie de Lyme avec le professeur Christian Perron. Énormément de messages arrivent, plusieurs centaines sont arrivés dans la boîte mail de la tête au carré. Des messages de patients qui souffrent. Visiblement, votre livre a un véritable écho chez nos auditeurs. Est-ce qu'on a une idée du chiffre de personnes qui sont reconnues comme atteintes de la maladie de Lyme et puis de personnes non diagnostiquées?
Les chiffres officiels français reconnaissent une augmentation importante puisque tout récemment, pour 2015, on reconnaît plus de 51 cas pour 100 000 habitants alors que c'était 9 cas pour 100 000 il y a 10 ans, sans qu'on ait modifié les tests, donc ça, ouais. Ça veut dire qu'il y en a plus reconnus, mais c'est largement inférieur à la réalité, et avec des collègues européens, on a pu estimer à partir du taux de contamination d'éthique et de la déclaration des érythèmes migrants, ces formes primaires de la maladie dans certains pays, on estime qu'il y a 1 million de nouveaux cas par an en Europe, rien que pour la maladie de Lyme au sens strict, et sans parler toutes les maladies associées.
Wilco vous demande pourquoi l'Allemagne dénombre-t-elle 10 fois plus de malades que la France? Leurs tests sont-ils tout simplement plus fiables?
Alors, les recommandations sont les mêmes en Allemagne, mais en Allemagne, il y a une grande liberté des médecins, des laboratoires, et on peut pratiquer des tests qui ne sont pas les tests officiels, sans que ça dérange personne. Parce qu'en France, si jamais vous faites ça, ben, les médecins sont radiés par le Conseil de l'Ordre, les laboratoires sont fermés ou condamnés en justice, on l'a vu récemment à Strasbourg, puis à Colmar, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, il y a une beaucoup plus grande liberté.
Monique, peut-on soigner la maladie de Lyme des années après avoir été infecté?
Alors, on peut la soigner, c'est des protocoles très longs qui sortent des recommandations officielles, qui ne sont pas toujours basées sur les antibiotiques. Il faut utiliser des antiparasitaires, d'autres produits anti-infectieux, et faire un traitement d'entretien qui est quelquefois à vie, avec notamment la phytothérapie à base de plantes, parce qu'il faut épargner les antibiotiques. Beaucoup de gens attaquent les positions des médecins qui s'occupent du Lyme chronique en disant « vous êtes fous, vous donnez trop d'antibiotiques ». Justement, on peut traiter sans antibiotiques, mais il faut avoir l'esprit ouvert pour accepter des méthodes de traitement qui ne sont pas reconnues aujourd'hui officiellement.
Toujours à propos des traitements, Thomas, porteur du parasite de la Borrelia et de la Babesia, je sens que les traitements que je prends ne font plus effet. J'ai entendu parler de nouveaux protocoles de traitement à base d'huile essentielle, nouvelle génération appelée huile essentielle 3D. Qu'en pensez-vous?
C'est ce que je vous dis. Il y a avant tout un tas d'huiles essentielles à base de produits naturels. Moi, j'y crois. Le problème, c'est que les plantes ne sont pas brevetables. Donc, on peut pas financer des études qui coûtent des millions d'euros pour démontrer leur efficacité. Pourtant, ça marche. Alors ça, c'est un des problèmes de la médecine aujourd'hui. On doit tout démontrer. Ouais. Et quand on n'a pas l'argent pour le faire, on dit que ça n'existe pas.
Là, il dit qu'il est porteur du parasite, la babésia. On n'avait pas parlé de cette bactérie.
Oui, parce que c'est un parasite, c'est pas une bactérie, mais c'est pas grave. La tique transmet beaucoup de bactéries en dehors de Borrelia. Je vais pas vous donner tous les noms latins parce que c'est compliqué, mais il y a les bartonelles et tout un tas d'autres bactéries. Plus les babésia. Connu à la campagne sous le nom de pyroplasme, parce que souvent les vétérinaires utilisent le nom de pyroplasme. Les gens qui vivent à la campagne savent que leurs chiens, leurs chats, leurs vaches, leurs chevaux ont des pyroplasmes, et les mêmes. Et ça peut donner beaucoup de symptômes chez l'homme aussi. C'est pour ça que pour guérir d'une maladie de Lyme chronique, il faut souvent utiliser aussi des antiparasitaires.
Alors, pourquoi un tel déni? On le voit, hein, c'est vraiment, on marche sur la tête, on comprend pourquoi vous employez ces termes assez forts de scandale sanitaire, de controverse médicale. Pourquoi pendant si longtemps, les autorités sont restées muettes?
Toutes les recommandations étaient faites par un petit club d'experts aux États-Unis qui s'est entouré d'un petit club d'experts en Europe qui était leur affiliés. Et ils ont imposé une vue de la maladie au monde entier, aux autorités de santé, à tous les laboratoires, de façon presque terroriste, en disant toute personne qui dévie d'un millimètre aura des sanctions. Des labos ont été fermés, des gens ont été radiés. C'était terrible. La justice aux États-Unis a montré que ces gars-là avaient plein de conflits d'intérêts avec les compagnies d'assurance qui refusaient de rembourser les malades, avec les fabricants de tests, avec les fabricants... Il y avait des essais sur les vaccins qui n'ont pas bien marché à l'époque, mais qui pourraient être prometteurs peut-être dans l'avenir. Et maintenant, s'ils commencent à reconnaître qu'ils ont conduit le monde dans l'erreur, dans l'obscurantisme, ils risquent gros parce que ces gars-là, ils ont même été menacés de mort aux États-Unis à l'époque.
Ouais. Alors, en France, quand même, les choses bougent. Un plan Lyme a été mis en place en septembre dernier par le ministère de la Santé.
Les associations de malades reçues longuement ce matin au ministère sont sorties avec le sourire, car ce plan répond finalement à beaucoup de leurs demandes. D'abord, le ministère reconnaît qu'il existe bel et bien des formes tardives de la maladie et qu'elle pose des problèmes de prise en charge avec des patients parfois très handicapés. Le plan prévoit aussi et surtout de mobiliser la recherche pour mieux comprendre la maladie et mieux la soigner. Dans le détail, le ministère annonce la création prochaine dans chaque région d'un centre spécialisé sur Lyme. Dans ces centres, les patients auront affaire à des médecins experts de la maladie. À terme, un protocole national va être élaboré pour assurer une prise en charge standardisée partout en France. On va former aussi tous les professionnels de santé. Et ça, pour Anne Collin, présidente de l'association L'Impact, c'était vraiment nécessaire.
On va sortir de l'isolement, on n'est plus un malade confronté à un médecin, on arrive dans un centre de soins. Et ils ont conscience au ministère qu'il va falloir faire vraiment du travail d'éducation au niveau des médecins généralistes. Moi, je viens d'une région très touchée qui est le Jura. Même dans le Jura, il y a des médecins qui ne maîtrisent rien.
Le ministère s'engage aussi à travailler sur l'amélioration des tests diagnostiques. L'objectif est de les rendre plus efficaces. Pour l'instant, ils ne sont fiables que dans 50% des cas.
Un reportage de Véronique Julia dans un journal de France Inter du 28 septembre 2016. C'est tout récent, c'était en septembre dernier. Ça va dans le bon sens, Christian Perron, enfin ?
Ça va dans le bon sens, et y compris dans le monde entier, parce que le beau cadeau de Noël, c'est que le président Obama a signé une nouvelle loi sur la maladie de Lyme au niveau fédéral, parce que des lois avaient été passées dans certains États, mais là, c'est au niveau fédéral. La maladie de Lyme chronique est reconnue aux États-Unis. On oblige les compagnies d'assurance à rembourser au-delà de 3 semaines, etc., à protéger les médecins. Donc, c'est une avancée capitale. Et au Canada aussi, une loi a été passée. Donc, j'espère que ça viendra en France. La loi avait été bloquée il y a 2 ans. Mais le ministère de la Santé a fait beaucoup de progrès ces derniers temps, a compris l'ampleur du problème. La ministre l'a reconnu. Donc je salue cet effort. Alors tout ne va pas être rose, parce que ce qui est important, c'est que dans ce travail sur le plan national, il a été clairement dit par les autorités de santé que les malades seraient partie prenante des décisions. Ça, c'est majeur. On ne peut plus imaginer aujourd'hui une maladie où les malades ne participent pas dans le VIH. Ils participent depuis 20, plus 30 ans ou plus. Dans le Lyme, ils étaient exclus. On les envoyait en psychiatrie en disant « circuler, vous n'avez rien à faire ici ». Mais ça ne va pas être rose, parce que beaucoup de collègues ne sont pas convaincus. Alors même si on ouvre un centre dans chaque région, je ne suis pas sûr que tout soit réglé du jour au lendemain. Il va falloir vraiment batailler pour qu'il y ait vraiment des médecins qui connaissent et qui acceptent la maladie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que ça, effectivement, il y a un besoin de formation qui est énorme.
Quelques questions d'auditeurs, justement, pour compléter l'information sur cette maladie. Y a-t-il un lien, demande Joël, avec les maladies auto-immunes, c'est-à-dire ces maladies où le système immunitaire se retourne contre son propre corps?
Alors, effectivement, ces maladies auto-immunes, on ne connaît pas bien la cause, sauf de savoir que le système immunitaire attaque les propres tissus. Beaucoup d'experts, de scientifiques dans le monde estiment que si le système immunitaire se retourne contre nous-mêmes, c'est que nos tissus sont habités par des microbes qui sont ce qu'on appelle les infections inapparentes, dont la maladie de Lyme. C'est pour ça que la maladie de Lyme peut simuler toutes les maladies auto-immunes. Ça peut donner un lupus, une polyarthrite rhumatoïde, une sclérose en plaques. Malheureusement, toutes les scléroses en plaques ou les polyarthrites ne sont pas des Lyme. Mais on sait que certaines de ces maladies ont guéri par des antibiotiques ou certains anti-infectieux. On a besoin de tests pour faire la part des choses, mais ça va probablement révolutionner la prise en charge de certaines maladies auto-immunes.
Aurélie vous demande, la maladie de Lyme peut-elle rester silencieuse? Pendant plusieurs années, je me suis fait piquer il y a 25 ans au niveau de l'aisselle et ce n'est qu'aujourd'hui que je subis des périodes de grande fatigue musculaire inexpliquée, des crampes dans les chevilles, etc.
Alors, il y a des formes inapparentes où on peut rester porteur de la bactérie pendant des années et un des facteurs de réveil de la bactérie, ça je l'ai vu clairement, ça peut être un grand stress. Des gens après, ils apprennent un décès dans la famille ou un accident de voiture et ça peut se révéler dans les 15 jours. Une nouvelle inoculation qui est passée inaperçue, voire par exemple une grosse grippe, une mononucléose, quelque chose qui affaiblit le corps et la bactérie va en profiter pour ressortir.
Merci Christian Perron. Je rappelle le titre de votre livre qui certainement intéressera nombre de nos auditeurs, La vérité sur la maladie de Lyme, paru chez Odile Jacob. Un grand merci à vous.
Et merci beaucoup.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Daniel.
Donc vous avez choisi de nous parler d'une étude qui s'intéresse à l'impact de la cigarette chez les fumeurs occasionnels.
Bah oui Daniel, on sait tous que le tabac est mauvais pour la santé, mais c'est la première fois qu'un travail aussi solide s'intéresse au destin des petits fumeurs et même des fumeurs occasionnels, c'est-à-dire ceux qui fument en moyenne moins d'une cigarette par jour.
Et alors ?
Eh ben ces gens qui vous taxent une clope par-ci par-là sont souvent persuadés qu'ils courent peu de risques.
Ah oui.
Et ils se trompent lourdement. Leur risque de cancer du poumon est multiplié par 10 par rapport aux non-fumeurs.
Ah oui, c'est énorme.
Ouais, c'est même inattendu en tout cas pour moi. L'étude confirme bien sûr le risque considérable associé à une consommation standard, hein, c'est-à-dire à peu près le paquet par jour. 40 fois plus de cancer du poumon, 3 fois plus d'infarctus, 10 fois plus de maladies respiratoires. Donc le tabac, c'est bien le fléau sanitaire numéro 1 des pays développés. Mais l'information principale que nous apporte ce travail, c'est l'absence totale de seuil de sécurité, contrairement par exemple au vin dont la consommation modérée n'est pas dangereuse. Donc, le risque de cancer du poumon ou d'infarctus n'est pas fondamentalement différent entre ceux qui fument 5 cigarettes par semaine et ceux qui en fument 10 par jour.
C'est pas pour ça qu'il faut leur dire d'augmenter la consommation, hein. Mais ces chiffres sont-ils vraiment fiables?
Ben oui Daniel, on n'est pas en face de stats à la con mais de données solides. Ouais. Tout d'abord, l'effectif est colossal. C'est 300 000 retraités américains suivis pendant 20 ans. Ensuite, de nombreuses données complémentaires ont permis de corriger la majorité des biais statistiques, l'origine ethnique, le niveau d'éducation, l'alimentation, la consommation d'alcool ou l'exercice physique qui peuvent influencer les risques. Enfin, le lien de causalité entre la consommation de tabac et les maladies pulmonaires ou cardiaques est solidement documenté. Alors bien sûr, il y a une marge d'erreur, mais on est quand même loin des estimations contestables des décès liés à la pollution, c'est vraiment du solide. Le message, en fait, il est simple. Les particules fines de l'atmosphère, c'est du pipi de chat à côté de celle de la clope, il faut le dire et le redire, la fumée du tabac est un poison majeur.
Voilà, ça renforce peut-être ceux qui ont envie de prendre des bonnes résolutions. Et alors, qu'est-ce que devient ce risque pour ceux qui arrêtent de fumer?
L'étude confirme ce qu'on savait déjà, savoir que l'excès de risque ne s'annule pas, mais qu'il diminue drastiquement chez les ex-fumeurs. Et ce d'autant plus tôt qu'ils ont arrêté tôt, avant la cinquantaine. C'est l'occasion pour l'ex-gros fumeur que je suis, je fumais 40 cigarettes par jour, rappeler qu'il est possible d'arrêter de fumer à condition de le vouloir vraiment. Il ne s'agit pas de faire des efforts, parce que dans ce cas, les efforts, la cigarette gagne toujours contre eux. Il faut arriver à prendre la décision d'abandonner définitivement sa vieille complice, quoi qu'il en coûte. Et c'est pas simple. Mais la détermination est une condition absolument indispensable pour gagner face à cette drogue dure. Alors après, on fait comme on veut, mais tant qu'on se contente d'essayer d'arrêter de fumer, on n'a aucune chance de réussir, comme le disait Yoda à Luke Skywalker.
Très bien, je vais essayer.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.
Merci Dominique Dupagne. La façon d'arrêter de fumer, pas par Star Wars, pourquoi pas. À la semaine prochaine dans La Tête au Carré.
À bientôt.